20h-21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre Jour J est le 30 décembre 2006. Saddam Hussein, implacable dictateur sunnite, est exécuté par pendaison à l'âge de 69 ans. Cet événement marquera l'émergence de Daesh en Irak. Nous sommes le 30 décembre 2006, à l'aube, dans un lieu tenu secret en Irak. Escorté par ses bourreaux cagoulés, Saddam Hussein, vêtu d'un costume et d'un manteau noir, lève les yeux vers la corde au bout de laquelle, dans quelques instants, balancera son corps. Cela fait presque 3 mois que le 5e président de la République d'Irak sait qu'il est condamné. Ce jour-là, à l'issue d'un procès d'un an créé de toutes pièces sous le haut patronage des Américains, Saddam Hussein, le sunnite, face à des magistrats chiites et kurdes, avait demandé à être fusillé comme un militaire. Mais le nouveau premier ministre irakien, Nouri al-Maliki, en avait décidé autrement. « Qu'allez-vous faire de cet homme ?» lui avait demandé précédemment le président américain George W. Bush lors d'un entretien en visioconférence. « Nous allons l'exécuter », avait répondu Maliki. Bush, depuis son bureau ovale à la Maison Blanche, avait levé le pouce en l'air en signe d'assentiment. Saddam Hussein, l'ancien allié de l'Occident et dictateur sanguinaire, allait donc mourir à la potence. Quand l'un de ses bourreaux veut lui couvrir le visage d'une cagoule, Saddam Hussein refuse. Il le toise et il lui dit « c'est ça être un homme ». Son regard est noir. À quelques secondes de son exécution, il affiche la même arrogance inébranlable qu'à l'énoncé de son verdict, lorsqu'il l'avait interrompu et apostrophé le juge. « Que vive le peuple ! À bas les traîtres, à bas les complices, Dieu est grand » avait-il déclaré. C'est ce même regard, cette fois-ci hagard, éreinté, qui avait permis de le reconnaître 3 ans plus tôt, quand il avait été capturé après une chasse à l'homme mondiale. Le dictateur avait perdu de sa superbe, méconnaissable sous sa barbe et ses cheveux hirsutes. Désigné ennemi public numéro 1 par les États-Unis, il avait été retrouvé dans un trou à rats sommairement aménagé, à 7 mètres de profondeur, dans une ferme près de Tikrit, fief de son clan, le seul endroit où il se croyait en sécurité. 8 mois après sa disparition, la tête de Saddam Hussein avait été mise à prix 25 millions de dollars. C'est un proche, dit-on, qui l'a trahi. L'opération Aube Rouge, lancée par une force de 600 hommes de la 4e division d'infanterie et des forces spéciales américaines, avait donc porté ses fruits et fait la fierté des États-Unis. Devant les caméras, on avait rasé Saddam Hussein et on l'avait forcé à tirer la langue pour vérifier son ADN. Le fugitif était bien l'homme qu'il cherchait et non l'un des sosies auxquels Saddam Hussein avait l'habitude de faire appel pour semer le trouble et assurer sa fuite. Ce 30 décembre 2006, dans cette geôle face à la potence, Saddam Hussein avance vers la mort. Cette dernière nuit, a-t-il refait le film de sa vie, de son enfance de bédouin sous les coups violents d'un père qui les abandonnera, lui et sa mère, quand il était si jeune, à ses débuts dans la politique, où son militantisme était laïque et les ambitions pour son pays alors immenses? A-t-il regardé ses mains couvertes du sang des massacres chiites et kurdes et encrassé des détournements d'argent qui mettront son peuple à l'agonie? Ce 30 décembre 2006, Saddam Hussein ne se révolte pas quand on lui passe la corde au cou. Il récite des versets du Coran. La trappe s'ouvre sous ses pieds. On dit que son agonie a été lente et cruelle, que le dictateur a poussé des cris d'animaux. À 6h10, Saddam Hussein est mort après 24 ans de dictature, 3 ans de captivité et 8 mois de chasse à l'homme. Il avait 69 ans. Dans un instant, Olivier Weber, écrivain voyageur et grand reporter qui a couvert de nombreux conflits, de l'Afghanistan à l'Irak et à la Syrie, sera notre invité jusqu'à 21h. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être fidèle à Jour J en direct et en podcast. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Notre Jour J, vous l'avez compris, ce soir est le 30 décembre 2006. Voici ce que l'on entendait au petit matin sur RTL.
Bonjour, Saddam Hussein est mort, il a été exécuté par pendaison il y a un tout petit peu plus d'une heure. L'information est donnée par plusieurs chaînes de télévision arabes et confirmée par un responsable américain. Les conditions exactes ne sont pas encore connues.
Et on les connaîtra évidemment par la suite. Olivier Weber, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Vous êtes écrivain, voyageur, vous êtes grand reporter. Vous avez couvert de nombreux conflits, de l'Afghanistan à l'Irak justement et à la Syrie. Avant de revenir sur la mort par pendaison de Saddam Hussein et sur son procès singulier, je dirais que le mot est faible, hein, on y reviendra. On va parler de cet homme, 5e président irakien. Il vient d'où, Saddam Hussein ?
Il vient d'où ? Il vient d'un village assez pauvre, à Tikrit, donc au nord-ouest de Bagdad. Et c'est quelqu'un qui s'est forgé par la terreur, parce que lui-même donc, a été abandonné par son père biologique. Récolté par un beau-père ultra-violent également, et qui le battait, qui l'a envoyé au champ, dit la légende sans chaussures. Il est devenu berger à 6 ans, puis à 12 ans, il a fugué. Il a retrouvé son oncle à Bagdad. Et là, il s'impose par l'ambition. Sa résilience, vous préférez, c'est le programme politique, c'est le pouvoir pour le pouvoir.
Et donc, il fait des études alors qu'il n'était pas du tout destiné à ça.
Il fait des études absolument parce qu'il fait des études secondaires grâce à son oncle. Il rejoint les cellules clandestines du parti Baas, qui est un parti pan-arabe. C'est un nationaliste arabe qui prône le pan-arabisme, l'union des pays arabes. Et il participe à un coup d'État à 20 ans et quelques en 59. Et là, il s'enfuit. Il s'enfuit vers Damas d'une part en Syrie, donc pendant 3 mois, puis après en Égypte. Et là, il passe 10 diplômes. Mais bon, c'est un peu la légende qui enrobe tout ça, parce qu'on sait très bien qu'il n'a pas eu sa licence de droit au Caire, mais qu'il l'a acquis, tenez-vous bien, à Bagdad, lorsqu'il était déjà chef de la sécurité à 31 ans. Il est rentré dans une salle d'examen avec 4 gardes du corps, avec un revolver, et là je peux vous dire que tout de suite les professeurs lui ont donné en main propre la licence de droit.
Voilà, il a obtenu son diplôme. Donc ça veut dire que très vite il a semé la terreur en fait.
Très vite,
il a compris que c'était son arme à lui.
Tout à fait, c'était son arme, et puis en même temps, alors toute proportion gardée, il y a toujours une tradition du raïs, et je crois qu'il faut l'évoquer aujourd'hui, donc de l'homme fort, on va dire, dans les pays du Moyen-Orient, et lui il l'incarne plus que tout autre. Il sent, lui qui n'a pas de vrai père, il sent qu'il doit être le père de son peuple, mais surtout imposer son pouvoir par la terreur. Et surtout, il est devenu totalement mégalomaniaque, et puis deuxièmement, paranoïaque, en fait. Les deux vertus, malheureusement, vont ensemble. Et il s'est imposé par la terreur jusqu'au bout, et ça, on peut dire qu'il a du talent pour ça, terroriser un peuple entier et terroriser l'individu jusque dans son lit.
Quand est-il arrivé à la tête de l'Irak ?
Alors, c'est en 79, donc il a déjà 42 ans, et là, il renverse, il participe à la mise à l'écart du général al-Bakr, qui est le président de l'Irak, mais surtout le responsable du parti Baas, et lui est le numéro 2 du régime. Bon, le général al-Bakr est parti officiellement pour raison de santé, en fait c'est une éviction, on va dire, et très vite il s'impose par la terreur, et il va gouverner ainsi, en fait. Il va commencer à évincer donc certains de ses proches, et je me rappelle d'une bande vidéo, enfin c'est long, c'est une émission de la télévision irakienne d'une heure, où donc dès qu'il prend le pouvoir en juillet 1979, donc il convoque des centaines de responsables militaires et surtout du parti Baas, et puis également des ministres ainsi que des responsables syndicaux. Et l'un d'entre eux est désigné comme le comploteur. Il monte à la tribune devant une batterie de micros. Saddam est assis donc à sa gauche, cigare donné par Fidel Castro en main, costume cravate. Les gens, on sent bien dans le Sénat que s'éponge le front, qu'est-ce qui va nous arriver ? Et le comploteur, entre guillemets, autodésigné sûrement, va commencer à vendre ses petits camarades. Et là, on sent les gens qui s'étouffent, qui commencent à regarder leurs pieds, l'air, etc. Et puis, en fait, très vite, vont dégager une 60aine de personnes. Il y en a 22 qui sont exécutés, au moins, fusillés devant Saddam Hussein, dont 5 ministres. Et donc, voilà, très vite, il a imposé la terreur. Ça a été filmé, caméra fixe et caméra ambulante, et c'est assez ingénieux pour l'époque. Et pour ceux qui n'avaient pas la télévision, tenez-vous bien, les villageois, les nomades, les bédouins, eh bien, ce sont des cadres du parti Baas qui les ont convoqués dans les villages pour dire, regardez le procès, regardez ce que fait notre maître. Et là, je peux vous dire que la terreur s'est invitée partout, dans tout le pays.
Propagande de la terreur, propagande donc de cette politique de la terreur de Saddam Hussein. Comment l'Occident réagit-il en fait à son arrivée au pouvoir et surtout à ses méthodes ? Alors, est-ce qu'il a été fréquentable en fait pendant toute une période ?
Tout à fait, il était fréquentable. Pourquoi ? D'abord, c'est un pays producteur de pétrole qui était très riche. Rappelez-vous, quand il arrive au pouvoir en 79, on est 6 ans à peu près après la guerre du Kippour. Et donc le prix du brut a explosé parce qu'en fait, il y a eu un embargo de la part des pays de l'OPEP, surtout des nations arabes, de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Et très vite, on sent la menace de l'Iran poindre pour l'Occident, à savoir que l'ayatollah Khomeini revient de France où il était en exil à Téhéran, s'empare du pouvoir. Il y a la fameuse prise d'otage des diplomates américains. Et là, donc, on va se rallier à Saddam Hussein. De facto, il n'est pas gênant. C'est un laïc, c'est un pan-arabe, membre d'un parti basse qui est tout à fait respectable à l'époque. Et donc, on va presque le pousser à faire la guerre contre l'Iran. Les Américains, les Russes, les Britanniques et aussi les Français. Alors, évidemment, derrière ça, il y avait le rêve de la vente des armes. Et ça marchait pendant 8 heures. Tout à fait, 8 ans de guerre Iran-Irak qui a fait quand même à peu près 1 million de morts.
Alors tout a commencé vraiment à tourner, j'irai en tout cas d'une façon définitive, au moment de la guerre au Koweït.
Oui, absolument, parce que Saddam Hussein ne perd pas la guerre en Irak, il finit en 88, mais ça sent quand même pas très bon pour lui. Il y a un statu quo, après 8 ans de guerre, 1 million de morts des deux côtés, enfin, au total. On revient à peu près au dessin des frontières initiales, y compris donc sur le Châtel Arabe, et qui est la réunion des deux fleuves du Tigre et de l'Euphrate. Donc c'est pas très glorieux, et lui et Saddam Hussein sentent que pour maintenir son pouvoir, il faut faire la guerre, il faut avancer, et puis il est solvable, de toute façon il est bankable, comme on dit dans les capitales, il a toujours ses barils de pétrole. Et donc il va décider d'envahir le Koweït, en prétextant que voilà, c'est un pays qui appartient à l'Irak historique, alors que l'Irak c'est une invention, c'est un peu une invention aussi, ou un démantèlement de l'Empire ottoman, et Saddam Hussein donc veut envahir le Koweït. Il l'envahit en août 90, c'est une grave erreur, les pays occidentaux réagissent, les pays occidentaux décident d'intervenir militairement, mais surtout les Américains, et donc là la guerre est déclenchée en février 91, et très vite il est mis en échec, mais les Saoudiens parviennent à convaincre les Américains de ne pas renverser Saddam Hussein, donc d'arrêter les chars aux portes de Bagdad. Donc c'est une erreur de Saddam Hussein, mais il arrive à se maintenir en vie et surtout au pouvoir.
Alors, à la tête des États-Unis en 91, un certain George Bush, père, au moment de la capture de Saddam Hussein en 2003, George Bush, fils. On se retrouve dans un instant pour parler de Saddam Hussein dans la suite de Jour J. À tout de suite.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Merci de nous être fidèles. Jour J qui revient ce soir sur un événement qui aura marqué l'actualité en 2003 et un tournant dans l'histoire de l'Irak. C'est l'arrestation puis la mise à mort de Saddam Hussein. Saddam Hussein qui résiste pendant 3 semaines à l'offensive américaine avant de prendre la fuite. On y reviendra. Olivier Weber, vous êtes notre invité donc jusqu'à 21h. Grand reporter, vous connaissez très bien l'Irak. Je parlais il y a un instant de George Bush père, George Bush fils, parce qu'il y a effectivement une passerelle entre ces deux présidents des États-Unis et Saddam Hussein.
Absolument, absolument. Et dans les motivations de George Bush Junior, en fait, en 2003, à combattre, à renverser Saddam Hussein, donc il y avait plusieurs motivations, y compris bien sûr le lobby militaro-industriel, le lobby pétrolier, mais aussi bien sûr la vengeance par rapport au père, et un côté messianique. Et puis quatrièmement, aussi le fait de trouver un allié de Ben Laden, qui était totalement faux. Vous savez, ces deux arguments, le lien entre Saddam Hussein et les armes de destruction massive, les ADM. Deuxièmement, les liens entre le régime de Saddam et Al-Qaïda Ben Laden étaient totalement infondés.
Voilà, parce qu'on est 2 ans après, évidemment, les attentats du
11 septembre. Deux ans après les attentats du 11 septembre. Il fallait trouver donc une personne à abattre, en tout cas un régime à détruire. C'était celui de Saddam Hussein. En même temps, c'était une erreur. Pourquoi ? Parce que la CIA avait dit au président Bush, donc à l'époque, en 2003, « Monsieur le Président, il ne faut pas aller à Bagdad, parce que sinon ce pays va imploser. Il va imploser en 3 parties. La partie chiite, puisque l'Irak est un pays à l'époque de 30 millions d'habitants à 60% chiites. Donc certains, beaucoup même de chiites pro-iraniens. 20% de Kurdes non-arabes et 20% de sunnites arabes. Et si on y va, Monsieur le Président, le pays va imploser. Et c'est ce qui s'est passé effectivement. Je pense que l'intervention américaine en Afghanistan en 2001 était justifiée et légitime. L'intervention en mars 2003 était catastrophique. Ça fait à peu près, on ne sait pas, entre 500 000 à 1 million de morts. Ce qui est quand même très très grave parce qu'on n'a pas résolu les problèmes encore aujourd'hui.
Alors on y reviendra. On est près de 9 mois avant la capture de Saddam Hussein en février 2003. Colin Powell, qui est alors secrétaire d'État aux États-Unis, se présente devant l'ONU et justifie l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Irak en brandissant une mystérieuse fiole.
On estime que Saddam Hussein pourrait en produire 25 000 litres.
Alors, Olivier Weber, qu'est censé contenir cette petite fiole ?
Eh ben, tout était faux, on l'a su après par les spécialistes du renseignement, c'est incroyable, y compris par les Britanniques qui ont fait mea culpa alors que c'était les grands alliés des Américains. Et en fait, cette guerre s'est tout justifiée par 2 mensonges. Donc c'est grave parce que rien n'était fondé. Il y avait un seul parti islamiste à l'époque, je me rappelle, je les ai vus, moi, de la montagne, ils étaient en bas, c'était un parti kurde. Ansar Islam, les baasistes irakiens, aussi féodaux, barbares, radicaux, étaient des laïcs. Ils torturaient les membres des partis chiites et puis surtout les islamistes du parti Dawa, etc. Parce que moi, je trouve que dans les maquis, dans la montagne, à l'époque, je faisais des reportages et des livres, déjà, je les voyais dans les maquis. Ils m'ont raconté tout ça et d'ailleurs, je suis allé à Bagdad pendant la guerre, avant la guerre et après la guerre, et j'ai retrouvé les mêmes réseaux. Donc c'est incroyable que de voir que Bush n'avait pas compris cela. Au contraire, il s'est laissé aussi emballer par Dick Cheney, le numéro 2, et par les loups de Washington, de l'état-major, les faucons, comme on disait, qui voulaient donc justifier la guerre. Et là, c'est grave parce que ça s'est traduit surtout par des victimes civiles.
Dans cette fiole que Colin Powell montre donc à l'ONU, il nous dit il y a de l'anthrax. Voilà. Et en deux mots, c'est une façon de justifier et d'expliquer que l'Irak possède des armes de destruction massive. Donc c'est pour justifier l'entrée des États-Unis en guerre contre l'Irak. C'est du pipeau, ça.
Tout à fait.
C'est de la mise en scène.
C'est la mise en scène, c'est un mensonge, c'est de l'auto-justification. Et regardez comme c'est grave. Parce que là, on a deux critères qui sont faux. Puis deuxièmement, les deux motivations, c'était d'une part, ce que disait Boubou Junior, le fils de Bush, le président, nous allons démocratiser tout le Moyen-Orient et nous allons isoler le grand ennemi des États-Unis et d'Israël, qui est l'Iran. Qu'est-ce qui s'est passé 18 ans après, on a totalement déstabilisé le Moyen-Orient jusqu'à la Libye, c'est en face de la France et en face de l'Italie, et bien sûr avec des répercussions sur le Sahel. Et deuxièmement, on a renforcé l'Iran. L'Iran qui est le grand vainqueur de ces deux guerres, la guerre en Irak et la guerre en Afghanistan. L'aire d'influence de l'Iran s'étend maintenant du Waran, donc c'est la frontière chinoise, tenez vous bien, de la Chine, à l'attaquer en Syrie et aux portes d'Israël par le Liban interposé. Donc voilà, donc il y a eu au jeu d'échecs une grande erreur d'appréciation des Américains. Donc on a un
mais temps comment politique. Les Américains peuvent-ils se pointer, pardon, mais devant l'ONU et énoncer un mensonge comme ça pour appuyer une entrée en guerre?
Oui, bah à partir du moment où on est membre, bien sûr, c'est incroyable, à partir du moment où on est membre permanent du Conseil de sécurité, à partir du moment où on est, même si on est à l'ONU dans l'extraterritorialité, on est quand même la puissance invitante, entre guillemets, symboliquement. Troisièmement, quand le Pentagone et la Maison-Blanche demandent à la CIA de fournir des preuves qui sont bidons, les preuves deviennent justifiées, quoi. Et même la presse y croit, d'ailleurs, quelque part. Il y a beaucoup de propagande d'orchestration.
Alors, en plus, une quinzaine d'années plus tard, il y a Lawrence Wilkerson, qui est secrétaire d'État adjoint, justement, à l'époque, auprès de Colin Powell, qui le désavoue publiquement. Écoutez.
Voilà un homme noir, ancien chef d'état-major de l'armée, maintenant secrétaire d'État, ancien conseiller de Reagan. Le seul de ces gens-là, ni Bush, ni Cheney, ni Rumsfeld, à avoir la confiance du peuple américain, et il l'utilise. Il l'utilise pour présenter aux Nations Unies ce que eux savent ne pas être l'exacte vérité.
Olivier Weber.
Bah, c'est un mensonge, c'est presque une trahison du peuple américain. Mais rappelez-vous, nous sommes en 2003. En 2000, George Bush est mal élu. Il est élu parce qu'en fait, son frère Jeb Bush, gouverneur de Floride, a radié 40 000 jeunes délinquants qui n'auraient pas dû être radiés des listes électorales. Il est élu, mais mal élu. En 2004, 4 ans après, donc un an après la guerre en Irak, il est très bien élu parce qu'il dit, regardez, je vous l'avais dit, on avait un ennemi qui était lié à Ben Laden, je l'ai renversé. On a renversé Saddam Hussein, etc. Donc c'était banco pour lui, donc c'est là où c'est grave, parce qu'on se dit que la démocratie est capable d'inventer le mensonge, c'est pas nouveau, mais surtout d'installer une guerre ex nihilo avec des arguments bidons, comme vous venez très bien de le mentionner, et de faire des morts pour justifier la pérennisation d'un pouvoir, en l'occurrence de George Bush. Donc c'est grave, surtout qu'il était, encore une fois, au début contre l'avis des militaires et contre l'avis donc, de la CIA.
Alors, cette guerre va durer 3 semaines. Ensuite, ce sera la chasse à l'homme. Et vous avez, vous soulignez, la ténacité et la bravoure, quelque part aussi, de Saddam Hussein pendant toute cette période. Cette chasse à l'homme qui va durer 9 mois. Puis la capture de Saddam Hussein, on en parle dans un instant sur RTL.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Georgie qui se poursuit ce soir en Irak, puisque nous revenons sur l'arrestation puis la pendaison de Saddam Hussein à l'issue d'une véritable chasse à l'homme, je vous le disais, qui débutera après 3 semaines de guerre. Écoutez, George W. Bush, depuis un porte-avions américain, il annonce la victoire des États-Unis.
Dans la bataille d'Irak, les États-Unis et leurs alliés ont gagné.
Donc, Olivier Weber, vous êtes notre invité jusqu'à 21h. Si je récapitule, les États-Unis décident s'attaquer à l'Irak pour renverser Saddam Hussein sur le prétexte qu'il posséderait des armes de destruction massive, mensonge et honté, donc de Colin Powell et des États-Unis, devant l'ONU. Les États-Unis, au bout de 3 semaines, donc, ont gagné la guerre. En tout cas, George Bush nous l'annonce. Il est où, Saddam Hussein, à ce moment-là? Il a déjà pris la fuite?
Il a déjà pris la fuite. Il est caché. Il a fait une réapparition dans les rues de Bagdad avec un fusil de chasse à la main.
Il paraît qu'il allait au resto.
Il allait au restaurant aussi, de son restaurant favori. Mais ça, c'était au début de la guerre. Puis après, l'aviation a pilonné véritablement, mais avec des armes de destruction assez intenses, des bunkers souterrains. Donc c'était compliqué pour lui d'y rester. D'ailleurs, Mossoul aussi a été bombardé, plusieurs villes ont été bombardées, etc. Et là, il a été exfiltré, il y a eu une chasse à l'homme. Alors, il y a un truc assez ingénieux qui a été lancé par des jeunes officiers américains, c'était le jeu de cartes. Il y avait 55 cartes. Incroyable. Avec un as de pique, avec un as de trèfle, avec donc il y a le numéro 1, 2, 3. Numéro 1, bien sûr, c'est Saddam Hussein, tête mise à prix pour 25 millions de dollars, c'est l'as de pique. L'as de trèfle, c'était son fils, donc ça devait être Kousai, si j'ai bonne mémoire, 15 millions de dollars de mise à prix. Et le numéro 3, c'était l'autre fils, Uday, qui était le fils aîné. Pareil, 15 millions de dollars. Et puis, ils ont tous été arrêtés.
Mais alors, attendez, les Américains avaient donc fournissé à la population un jeu de cartes à jouer avec les visages wanted, je dirais, en Irak. Il paraît même qu'il y avait des survols, en fait, en avion. C'est-à-dire qu'ils balançaient des airs. Les Américains balançaient des jeux de cartes à la population.
Les jeux de cartes, absolument, pour inciter la population à la délation.
Voilà.
Alors, pour 60% pour les chiites, voire pour les kurdes, c'est assez facile. Pour les 20% de sunnites, mais qui avaient le pouvoir, qui ont eu le pouvoir très longtemps, pendant 24 ans, voire plus, avec le parti bas, c'était plus compliqué. Moi, je me rappelle en même temps cette terreur qui existait avant la guerre. Partout, partout. Bah, évidemment, quand je faisais des reportages ou des livres là-bas en Irak, au temps de Saddam Hussein, j'étais suivi une jour et nuit, même dans mon hôtel. Donc, j'étais avec des policiers dans ma voiture, un interprète, accompagnateur plutôt, et puis un chauffeur. Mais alors, j'avais un bon chauffeur parce que c'était un très, très grand joueur de football et on me foutait la paix après 5 heures du soir. Les inspecteurs de police rentraient chez eux, puis après on allait faire une tournée. Et grâce à ce chauffeur footballeur, j'avais accès à pas mal de familles, mais je lisais la peur à chaque fois. La peur était là, ouais, comment elle s'était instaurée, etc. Et alors après, c'était aussi la délation, la dénonciation qui s'était instaurée. Mais il restait que la population avait peur. Donc alors ça a marché en partie, parce que finalement on a fini par retrouver Saddam Hussein, mais quand même relativement longtemps après, puisqu'il est arrêté.
C'est ce que vous dites, ça a duré longtemps. 9 mois.
Oui, 9 mois.
9 mois de chasse à l'homme. Il s'est rendu donc dans son fief natal, Tikrit, le seul endroit où il se pensait, je dirais, en sécurité. On va écouter, si vous le voulez bien, Paul Bremer. C'était le 14 décembre 2003. Il est en charge de diriger l'autorité provisoire de la coalition en Irak, donc depuis l'arrivée des États-Unis et la victoire des États-Unis, et il annonce la capture de Saddam Hussein.
Ladies and gentlemen, we got him.
À l'américaine. We got him. Nous l'avons. Ça y est, nous avons l'ennemi public numéro un. Nous avons arrêté Saddam Hussein. Il était dans un trou à rats.
Un trou à rats.
Expliquez-nous un peu ce qu'il a fait pendant 9 mois.
C'est une chose incroyable, parce qu'on ne savait pas où il était, évidemment. On pensait qu'il était protégé dans un village. Etc. En fait, il était dans une cache souterraine, 2,50 m de long, avec des biscuits, des conserves, une Kalachnikov, 750 000 dollars.
Il paraît qu'il y avait juste la place d'un homme. En fait, c'était sommairement aménagé. Il était sous terre, en fait.
Sous terre, et on pense qu'il a été dénoncé avec cette prime de 25 millions de dollars dont je parlais. Ses deux fils, donc Uday et Kousai, avaient été tués au cours de l'été précédent, donc juillet 2003, dans une villa à Mossoul, sûrement encore par dénonciation, on est pratiquement certain à 100% par le propriétaire de la villa, qui était pourtant un fidèle de Saddam. Et là, donc, c'est une fin de cavale pitoyable pour Saddam Hussein. Il est humilié, il est entravé, il se rend sans combat, d'ailleurs, il ne peut rien faire, de toute façon. Il est méconnaissable.
Cet homme qui avait semé la terreur, il a des sortes de cheveux de dreadlocks, il a une barbe absolument incroyable. On sent qu'il est éreinté par cette chasse à l'homme.
Apparemment là, sous médicaments d'ailleurs.
Ouais. Oui, c'est ce que l'on a dit effectivement, qu'il était drogué sous médicaments. Là pour le coup, c'est un dictateur qui a perdu de sa superbe.
Il a perdu de sa superbe, c'est fini, il est traqué depuis des mois. Il se pense invincible.
Toujours.
Ce qui s'est passé aussi toujours, parce que quand il a prétendu livrer la mère de toutes les batailles contre les Américains, donc lorsque la guerre a été déclenchée le 20 mars 2003, il savait très bien qu'il allait perdre. Alors apparemment, il y a les pays arabes et la Russie, la Russie, c'est ça, qui lui avait proposé l'exil et l'a refusé. Il a dit non, je vais combattre, c'est mon destin, etc., c'est ma fierté. Bon, évidemment, il allait à la catastrophe et il a fini par se rendre.
Je le disais, en fait, l'annonce de Paul Bremer était à l'américaine, et je dirais que la capture a été aussi à l'américaine, c'est-à-dire que Saddam Hussein a dû se prêter devant les caméras avec une lumière criarde sur sa gueule de fugitif, se prêter à des scènes humiliantes, de tests ADN, de rasage.
Tout à fait. Et c'est d'autant plus flagrant que lors de la première guerre en 91, on disait que l'Irak était la quatrième armée la plus puissante au monde. Là, toute cette dramaturgie donc, de la télévision américaine et la propagande américaine, c'est de dire, nous, regardez ce qu'on récolte, c'est un raïs, un dictateur défait, qui n'a plus rien, il n'a même pas trois combattants autour de lui. Donc ça veut dire que la plus grande nation au monde avait eu gain de cause sur l'un des plus grands dictateurs au monde.
Voilà, et on va lui faire un procès. Ce procès dont certains, en tout cas, diront qu'il était une grande mascarade. Et ce procès qui, évidemment, se soldera par la condamnation à la pendaison de Saddam Hussein. On se retrouve dans un instant pour vous le raconter. À tout de suite.
Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être fidèle à Jour J qui ce soir vous raconte l'histoire du monde, ces actualités qui nous ont marquées. Et puis depuis 20h, c'est Olivier Weber qui est notre invité pour nous expliquer ce qui nous a peut-être échappé en 2003 quand nous avons appris la capture puis la mort de Saddam Hussein en Irak. Avant cela, Olivier, avant la mort de Saddam Hussein, un procès de plus d'un an. Est-ce qu'on peut parler véritablement d'un procès ?
Oui, c'est un procès dans l'apparat. On a relativement respecté les droits de la défense. Saddam Hussein a eu droit à plusieurs avocats, d'ailleurs, dont deux Français, Roland Dumas, l'ancien ministre des Affaires étrangères, et Jacques Vergès.
Auparavant, trois autres qui ont été assassinés.
Absolument, avocat irakien. Et en même temps, on sait très bien que la condamnation était déjà acquise, évidemment, pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Donc, c'était rendu coupable Saddam. Il faut rappeler quand même qu'il a gazé sa propre population. C'est l'un des rares cas de l'histoire où un président, un chef d'État, utilise l'arme chimique contre sa population, à savoir les Kurdes, lors de différentes opérations, dont l'opération Anfal. Moi, je me rappelle, je suis allé plusieurs fois dans les maquis kurdes avec les combattants et les combattantes kurdes, les Peshmerga. J'ai écrit ce livre, s'appelle Si je t'oublie Kurdistan, d'ailleurs, un peu en souvenir de ses voyages en Syrie et en Irak. Et ils étaient tous terrorisés par l'usage de l'arme chimique qu'en avait fait Saddam, y compris surtout Halab. Je rappelez-vous, c'est en mars 1988. Ça fait 5000 morts. C'est connu surtout pour les images des mères serrant encore leurs bébés dans leurs bras, dans les rues de cette petite ville. Et c'était du gaz moutarde utilisé par l'aviation, donc avion et hélicoptère de l'armée de Saddam Hussein. C'était en pleine guerre Iran-Irak. On a un petit peu fait semblant de fermer les yeux là-dessus. Mais en tout cas, le jour du procès, s'est mis sur la table pour, entre guillemets, génocide. En tout cas, c'était l'acte d'accusation, même si ce n'était pas tout à fait un génocide contre les Kurdes. Et lui, il reprend de sa superbe. Ce chien traqué dont vous parliez tout à l'heure, barbu, à peine lavé, etc., qu'on capture dans une cave souterraine, eh bien, on le sort de là, il retrouve de sa superbe, et il a, il faut le reconnaître, du panache, il a du cran, il se défend, il engueule même le président. Il dit, je suis le président, c'est moi le président de ce pays, vous faites avoir par les Perses, c'est-à-dire par les Iraniens, et par les Américains, honte à eux, honte à vous. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, il a repris un petit peu de sa faconde. Et c'était un petit peu le procès du pouvoir sunnite, qui était un pouvoir minoritaire, mais en tout cas qui tenait le pays.
Alors, si l'accusation était juste, en revanche, on a remis en cause, effectivement, les conditions de ce procès. Ça a quand même été donc fait sous la haute autorité des États-Unis, on va le dire, et devant des magistrats kurdes et chiites.
Absolument.
Donc il y avait personne, vous voyez ce que je veux dire.
On a dit
que c'était en fait une sorte de mascarade de procès pour de toute façon une condamnation qui était acquise.
Elle était acquise, tout à fait. Elle était acquise et d'ailleurs même le procès de génocide, entre guillemets, contre les Kurdes, s'est poursuivi donc l'année d'après, en 2007, dès janvier, en l'absence de Saddam qui venait d'être pendu, donc comme on le disait, donc le 30 décembre 2006. Donc oui, toutes les conditions n'ont pas été respectées, il fallait faire vite, il ne fallait pas que le peuple se révolte et il ne fallait pas donner non plus un signal aux islamistes qui étaient déjà acquis à la cause de Saddam depuis longtemps.
Évidemment, le 5 novembre 2006, le président de la Cour, Mounir Haddad, s'adresse aux prévenus. Et là, on va entendre effectivement ce Saddam Hussein qui a repris, on va dire, de sa verve.
Lève-toi, nous allons procéder à la lecture du verdict. Pardon ? Lève-toi, écoute le verdict du tribunal debout.
J'écoute ton verdict.
Lève-toi, debout.
Non, assis.
Mets-toi debout. Mettez-le debout.
Je reste assis.
Allez, passe par là. Mets-toi debout. Mets-toi debout.
Ne me force pas la main, je te dis.
Le tribunal condamne le prévenu Saddam Hussein El-Majid à la pendaison jusqu'à ce que mort s'en suive.
Que vive le peuple ! Abat les traîtres ! Abat les complices ! Dieu est grand !
Il ne lâche rien.
Ne lâche rien.
Jusqu'à la fin, il apostrophe, il désavoue, il remet en cause. Il sera pendu le 30 décembre 2006. Il avait demandé à être fusillé.
Tout à fait.
Ça lui a été refusé.
Ça a été refusé. Donc la cour d'appel
fusillé
a maintenu.
Fusillé comme les militaires, en fait.
Tout à fait.
C'était l'idée.
La cour d'appel a maintenu la décision, donc parce qu'il y a eu un appel dans le cadre automatique en cas de décision d'exécution. Et donc oui, il a été pendu dans des conditions dramatiques, parce que là aussi, les conditions de dignité d'un accusé n'ont pas été respectées.
Jour de l'Aïd.
le jour de l'Aïd, absolument.
C'est pas donc, un hasard non plus.
Pas un hasard non plus, le 30 décembre 2006. Et ça s'est passé donc dans un quartier, en fait, dans la garnison des Mourabarat, les services de renseignement irakiens, ou ex-Mourabarat, Al-Qadimiya, un quartier de Bagdad. Donc, et là, on a vu des vidéos ensuite. Il y a eu deux arrestations, d'ailleurs, des auteurs de ces vidéos. Et c'était insoutenable, c'était inhumain, effectivement. Donc là, effectivement, la décence aurait imposé de meilleures conditions de pendaison.
Et en même temps, jusqu'au moment, et je le disais en tout début d'émission, je le racontais, mais jusqu'au moment où on lui met la corde au cou, cet homme reste Saddam Hussein.
Il reste Saddam Hussein, il est auto-justifié, il s'auto-convainc, en même temps, c'est son destin.
Et
c'est
très bien qu'il a pris. Toujours cette envergure, quoi.
Il a cette envergure.
Il regarde la mort en face.
Tout à fait. Alors, il y a deux choses. C'est d'une part, il sait qu'il a pris le pouvoir par la force et qu'il risque, depuis le début, d'être tué. Il a fait en sorte de donner aussi les pouvoirs à ses plus proches, y compris à ses deux fils, Oudaï et Koussa, et qui se sont très, très mal comportés avec la population, avec les opposants et même avec les femmes. Les violences faites aux femmes par les deux fils Saddam Hussein, c'était pas rien, parce que Saddam Hussein était paranoïaque.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Nous venons de retracer une grande page de l'histoire de l'Irak ce soir. L'Irak qui n'a pas trouvé la paix dans la mort de Saddam Hussein, bien au contraire en fait, Olivier Weber. Hein.
Bien au contraire, parce qu'en fait, tout le parti Baath donc a été détruit. On a forcé les 300 000 membres, fonctionnaires et cadres du parti, enfin c'était tout le pays, pratiquement toute l'élite du pays a démissionné, et qu'ont fait ces membres du parti Baath. Ils ont donc rejoint les pires ennemis, leurs pires ennemis, à savoir les partis islamistes et
Al-Qaïda. Donc Al-Qaïda dans un premier temps.
Dans un premier temps, qu'allait devenir Daesh, l'État islamique, un peu plus tard. Et donc ça, c'est l'erreur d'appréciation des Américains, surtout de leur proconsul à Bagdad, Paul Bremer, qui n'a pas eu l'intelligence de voir à long terme. Et la deuxième erreur qu'il a faite, c'est de nommer quelqu'un que j'ai connu dans les maquis, dans le nord de l'Irak, des années auparavant, même 10 ans plus tôt, c'est Ahmed Al-Shalabi. Al-Shalabi qui est, c'est un professeur de maths de Boston, du MIT, qui est un chiite irakien, qui est en exil, condamné d'ailleurs par contumace en Jordanie pour fraude bancaire à 20 ans de prison, et qui a arnaqué littéralement, on va le dire, la CIA, en disant « oui, je suis détenteur de secrets, j'ai un congrès national irakien ». Un journaliste du Washington Post disait que c'était la plus grosse arnaque de la part d'alliés de la CIA, donc sur l'administration américaine, avec un coût de 60 millions de dollars. Et que va devenir Shalabi? Il devient Premier ministre irakien. Or, on s'aperçoit 2 ans plus tard, en 2005, qu'il était un agent, en tout cas très proche des Iraniens. C'était un chiite irakien proche de l'ennemi et il aurait passé des renseignements. Donc, deux erreurs de la part des Américains, c'était idéal pour déstabiliser ce pays. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Saddam Hussein, il y avait un dictateur qui tenait le pays. Il lui fallut le remplacer par une autre espèce d'appareil de transition pour qu'il n'y ait pas le chaos. Et regardez, 18 ans après, on est presque au retour, un retour à la case départ. Et deuxièmement, on a une onde de choc qui se répartit jusqu'au Sahel, jusqu'en Afrique, jusqu'au Moyen-Orient, jusqu'en Syrie, etc. Donc, il y a une erreur d'analyse et un manque de profondeur stratégique de la part des États-Unis.
Quelle est la situation économique de l'Irak aujourd'hui?
Bah écoutez, ça va mieux parce qu'ils produisent toujours 4 millions de,
ouais, de pétrole,
de barils de pétrole par jour. Mais bon, vu le prix du baril, c'est pas extraordinaire. Mais en tout cas, il y a toujours une économie importante. Alors, il y a la corruption. Il faut bien penser aussi que les trois composantes de la société irakienne, à savoir les sunnites, 20%, les chiites, 60%, et les kurdes, 20%, se partagent le gâteau. Ils se partagent le pouvoir d'une part un peu à la libanaise. Puis deuxièmement, il y a une partage de la rente pétrolière. Un député, par exemple, est payé pratiquement 20 000 euros. Un député a droit à plusieurs gardes du corps. Un ministre a des privilèges extraordinaires. Il est capable aussi de détourner une partie de cette rente, etc., etc. Donc il y a une stratégie de la corruption sur laquelle les pays occidentaux ferment les yeux. Donc il y a un mécanisme de la reconstruction grâce à ce pétrole. Mais en même temps, il y a une grande disparité dans la population. Et puis deuxièmement, toujours l'insécurité à cause des islamistes et puis de l'environnement. Et l'Iran, troisièmement, qui est le grand gagnant de cette guerre.
Voilà, et qui finalement, l'Iran s'en sera toujours sorti, d'une façon ou d'une autre. Et,
tout à fait. L'Iran n'a pas été isolé. Tout à fait. L'Iran sort plutôt renforcé de ces deux guerres, donc l'Irak, la guerre d'Irak et la guerre d'Afghanistan.
Bien des années plus tard, on a d'ailleurs consacré une émission au colonel Kadhafi, et on a le sentiment quand même, quand on voit ces hommes qui ont été au pouvoir de ces pays-là, qu'ils ont tous eu un parcours quasiment identique.
Oui, absolument, parce qu'il y a cette tradition du potentat, respectés, quelquefois issus de tribus nomades ou bédouines, hein, c'est le cas pratiquement de Kadhafi et de Saddam Hussein.
Qui avaient de grandes idées pour leur pays.
Des grandes idées pour leur pays.
Et pour le monde arabe.
Plutôt tout à fait laïque, séculaire, nationaliste, pan-arabe quelquefois, etc. La réunion de la grande nation arabe, etc. Alors il y avait du vrai là-dedans, évidemment. Et puis il y avait cette image de Nasser, le général égyptien qui les a inspirés. Et puis ensuite, ces deux leaders, Kadhafi et Saddam Hussein, ont pensé que l'Égypte avait trahi parce que s'étant rapproché d'Israël. Mais en tout cas, c'était aussi un prétexte idéal pour ces deux leaders potentiels pour prendre le pouvoir et asseoir ce pouvoir par la terreur. Et étant allé plusieurs fois, enfin de maintes fois en Irak, clandestinement, officiellement, je peux vous dire que la terreur existait vraiment. Il y avait un vrai culte de la personnalité, une mégalomanie, une paranoïa. Et en même temps, une propagande. On disait que Saddam Hussein avait écrit un roman d'amour, qu'il écrivait des poèmes. On avait dit qu'il avait été blessé lors de la tentative de coup d'État de 59. On a enjolivé sa légende. Et je me rappelle avoir visité Babylone, au temps de Saddam et après, 80 km au sud de Bagdad. Et là, vous aviez un grand portrait de Nabucodonosor, le roi de Mésopotamie et de Babylone. Et à côté, Saddam Hussein, avec des briques dans les murs de Babylone, excavées, rénovées, reconstruites par l'appareil d'État irakien. Et sur pratiquement chaque brique, l'initiale SH Saddam Hussein. Donc ça veut dire qu'il était l'héritier des empereurs de Mésopotamie.
Et son château ?
Et son château, absolument. Il avait 20 châteaux, dont certains que j'ai fréquentés avec la guérilla, enfin les Kurdes, parce qu'ils étaient occupés par la résistance kurde dans le nord, dans les montagnes. Mais juste à côté de Babylone, effectivement, le château de Saddam, sur Saddam Hill, la colline de Saddam.
Et il paraît que là, c'était de l'opulence, oui, alors que son peuple était à l'agonie.
Tout à fait. Et le peuple vivait très très mal. Il n'y avait que l'essence qui était pratiquement gratuite. On faisait un plein d'essence de 40 litres avec quelques dizaines de centimes d'euros. Et encore, hein, toute proportion gardée en pouvoir d'achat d'aujourd'hui, en 2021. Mais sinon, le peuple avait faim, le peuple ne mangeait que de la semoule, du blé et pas grand-chose. Donc à part l'élite du parti basque qui lui avait tous les privilèges.
Et lui, évidemment, à la tête de tout cela. Merci beaucoup, Olivier Weber, d'avoir
Merci
accepté mon invitation. Vous le citiez tout à l'heure, Si je t'oublie, Kurdistan, c'est votre livre aux éditions de l'Aube. Et je rappelle également Au Royaume de la Lumière aux éditions Plomb Terre Humaine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Merci à vous.
À bientôt, Olivier Weber sur RTL.